Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dumani.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
La déforestation, c'est le thème de notre grand dialogue du jour. Au Mali, 6 millions d'hectares de forêt ont été consumés par les feux de brousse en 2018, selon les autorités. À cela s'ajoute la coupe abusive du bois. Quelles sont les conséquences et causes de la déforestation? Comment protéger les arbres et avec quels moyens? On en parle dans ce débat avec nos invités, Madame Kanouté Fatoumata Kone, représentante de la Direction nationale des eaux et forêts, Tidjani Sangaré, représentant du groupe Clédou, et Monsieur Souleymane Diallo, professeur à l'ITPR de Katibougou. Je suis Akia Touré, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
D'abord, Monsieur Diallo, que représentent les forêts au Mali et quels sont leurs rôles?
Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer en tant que représentant du groupe national de travail sur la gestion durable des forêts. Donc, les forêts sont importantes pour la vie économique, sociale et culturelle du pays et sont une source pour la satisfaction des besoins fondamentaux des populations et puis pour la création de richesses pour l'économie nationale. Donc pour cette raison, la forêt économiquement joue un rôle important dans l'économie nationale du Mali parce que c'est la quatrième branche productive du pays, après l'agriculture vivrière, l'agriculture commerciale et puis l'élevage. Donc ça veut dire que c'est un secteur qui n'est pas négligeable et donc qui a contribué considérablement à la création des richesses dans notre pays.
D'accord. Madame Kanouté, la forêt est un secteur productif au Mali. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire par rapport à leur rôle?
Merci beaucoup, Arkea. Je remercie nos auditeurs et nos téléspectateurs. Je vous remercie par rapport à cette opportunité offerte à nous pour parler un peu de la gestion des forêts au Mali. Donc, les forêts sont des boisements assez importants au Mali. En plus de leur rôle économique évoqué par le prédécesseur, notamment que les forêts sont exploitées comme le bois de chauffe, le charbon de bois pour vendre, pour avoir le revenu. En plus de ça, il y a un rôle écologique parce que les forêts contribuent à la récupération des terres. Les forêts contribuent à assainir notre atmosphère à travers le rejet un peu de l'oxygène et la consommation du COD. Et en plus, il y a aussi le rôle social, c'est-à-dire que si on regarde un peu dans nos villages, nos activités culturelles se font dans les forêts. Donc, tout ça contribue à ce qu'on dise que les forêts sont très, très importantes. Sans forêt, il n'y a pas de vie, en fait. Donc, les forêts sont très importantes.
D'accord. Monsieur Sankaré.
Merci, Arkea, pour cette opportunité offerte par Studio Tamani aux membres du GNT pour bien expliquer les activités du GNT en même temps, parler un peu sur les forêts de façon nationale. Et quand on parle de forêt, on parle de vie, parce que tout est lié aux forêts aujourd'hui. Si vous voyez qu'on arrive à cultiver, à recevoir un rendement un peu élevé, c'est dû au fait que les forêts jouent pleinement leur rôle. Si les forêts n'existent pas, on allait se retrouver dans une zone désertique, dans une zone où il n'y a même pas de pluie, où la chaleur allait être accablante, où les conséquences allaient être dramatiques. Parce que quand on parle des fonctions des forêts, elles sont multiples. Parce qu'il y a des fonctions économiques, comme ils l'ont mis à le dire. Il y a des fonctions médicinales, il y a des fonctions sociales. Parce que pratiquement toutes les traditions, que ce soit comme on appelle le Komo et le Domo, s'est passé dans les forêts. Ça veut dire que les parents, ils avaient consacré ces lieux-là comme des symboles ou bien comme des valeurs à conserver de façon naturelle. Même pour parler des rendements au niveau de l'agriculture aujourd'hui, il faut parler des forêts. Parce que, comme les scientifiques ont lié à le dire, pour avoir une pluviométrie maîtrisée, une pluviométrie régulière maîtrisée, il faut qu'au moins la couverture, comme on appelle, de la surface soit occupée par 15% de nos forêts. Et aujourd'hui, comme on appelle, tout le monde est en train de prendre conscience par rapport au rôle et l'importance des forêts dans notre pays.
D'accord. On vient de parler de l'importance des forêts pour notre pays. Madame Kanouté, quelle est la situation actuelle de nos forêts ?
Et nos forêts sont extrêmement dégradées. C'est vraiment triste de le dire, mais c'est ça la réalité, la triste réalité. Nos forêts sont très, très dégradées. Et cette dégradation a des causes, parce que le bois est utilisé comme source d'énergie. Le bois et le charbon de bois sont utilisés comme source d'énergie, domestique surtout. Il y a la pression agricole. Nous savons que chaque année, on exploite les forêts pour installer les champs. Donc c'est soit par coupe de bois ou bien par brûlis. Il y a aussi la pression pastorale. Donc il y a les animaux qui rentrent dans la forêt, les animaux qui broutent les jeunes plants, les animaux qui piétinent les plants et les animaux qui dament le sol au niveau des forêts. Il y a aussi l'orpaillage et la recherche minière. Chaque année, on assiste à des permis de recherche minière dans les forêts qui couvrent souvent même des parties des forêts classées. Et on est obligé souvent de dire non, on ne peut pas accepter ces permis parce que ça couvre des parties des forêts classées. Donc il y a aussi les pressions sur le plan naturel. Il y a le changement climatique donc, qui joue aussi sur les forêts. Donc il y a aussi une partie, et souvent qu'on le dise, il y a le laxisme dans l'application des textes. On a des textes qui sont élaborés, de beaux textes, mais on a de la peine à les appliquer. Donc tout ça, ça fait que nos forêts sont dégradées. Voilà brièvement les causes de dégradation de nos forêts. Donc on assiste vraiment à une dégradation de façon draconienne de nos forêts, du jour au lendemain.
Monsieur Sankaré.
Comme l'AIA le dire, la situation est déplorable. Malheureusement, les pays de forêt qui existent sur le territoire national sont sujets d'exploitation de façon abusive. Parce que l'AIA a évoqué des causes comme le défrichement. En même temps, il y a l'urbanisation galopante aussi qu'il faut ajouter. Parce que pratiquement, lorsque la population s'accroît de façon comme on appelle, exceptionnelle, il faut comme on appelle, faire loger tous ces mondes-là. Raison pour laquelle il y a certaines forêts qui sont menacées aujourd'hui, parce qu'il faut des logements pour tous ces mondes-là. En même temps, il y a comme on appelle, des feux de brousse. Des feux de brousse souvent qui sont d'origine volontaire ou involontaire. Par exemple, je peux dire que le cas au niveau de la forêt classée de la Faya, qui est traversée par la route nationale 6, souvent avec les passagers, lorsqu'ils tombent en panne, ils allument le feu pour se dépanner, pour allumer, comme on appelle, allumer le feu pour des besoins d'alimentation. Après le dépannage, ils oublient d'éteindre le feu ou bien ils laissent le feu, qui peut être sujet de feu de brousse. Il y a aussi la surexploitation au niveau de nos forêts. Parce que, comme elle a le dire, il y a des textes qui sont là. Si les textes sont, comme on appelle, appliqués aujourd'hui à la lettre, franchement, le Mali allait se trouver dans une dynamique où les forêts sont, comme on appelle, épargnées par cette exploitation qui ne fait que détruire l'espace boisé aujourd'hui au Mali.
Qu'est-ce qui enfreint l'application de ces textes?
Bon, c'est une question, je pense qu'elle est plutôt oui. Familière aux eaux forêts, parce que nous sommes là en tant que secteur privé, nous sommes considérés comme des partenaires des eaux forêts. Il y a aussi le manque de moyens quelque part, parce que en même temps l'effectif. Parce que quand on essaie de regarder le nombre de partants en retraite chaque année au niveau du service des eaux forêts est largement supérieur par rapport au nombre de recrutements de chaque année. En même temps, les jeunes qui sont dans le système n'arrivent pas à mieux, comme on appelle, s'approprier des textes, ou bien ils n'appliquent pas les textes de façon générale. Et ce qui fait que les textes sont un peu laissés dans les trous et qui ne sont pas appliqués sur le terrain. Bon, la mobilité aussi, comme je l'ai dit, manque de moyens, il y a un problème de mobilité. Souvent, il y a des agents qui sont là, ils n'ont pas de moyens pour aller appréhender les exploitants frauduleux dans certaines forêts. Ils ne peuvent que s'arrêter au bord de route pour essayer de les arrêter, en même temps voir comment appliquer la loi. Mais à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas de moyens, même s'il y a quelquefois des moyens, on va trouver qu'il n'y a pas de carburant pour faire, comme on appelle, fonctionner l'engin en question. Bon, voilà oui. tous ces problèmes-là qui font que le service n'arrive pas à jouer pleinement sa mission régalienne.
Alors, avant d'arriver à M. Diallo, on va revenir à Mme Kanouté, au moins pour qu'est-ce qui empêche quand même l'application de ces textes.
L'application des textes, comme on l'a dit, on a vraiment des beaux textes qui sont élaborés, qui sont adoptés. Et l'application devient souvent difficile. Et si on regarde un peu le nombre de forestiers au Mali, c'est extrêmement faible. On ne peut pas couvrir tout le pays pour pouvoir appliquer les textes normalement. Nous n'avons pas les moyens de déplacement pour couvrir là où on intervient. Donc, même si on sait souvent qu'il y a un exploitant quelque part, c'est difficile d'aller le voir puisque nous n'avons pas les moyens de déplacement pour faire ça. Il y a aussi le fait que le social est très développé au Mali. Quand on appréhende quelqu'un, c'est quelqu'un qui téléphone pour dire « Ah, c'est un parent, donc il faut l'excuser ». Souvent, c'est une autorité qui appelle pour dire « Ah, vraiment, d'intervenir auprès de nous pour excuser l'exploitant en question ». Donc, tout ça, ça rend difficile. Et l'application des textes. Il y a aussi le fait que quand les textes sont élaborés, il faut vraiment prendre énormément de temps pour former, informer, sensibiliser. Donc souvent, les agents même qui appliquent ces textes-là ne sont pas suffisamment formés, manquent toujours de moyens ou insuffisance de moyens pour assurer la formation, la compréhension. Parce que quand les textes sont élaborés, ce n'est pas du jour au lendemain où on peut les maîtriser si on n'a pas été impliqué dans l'élaboration de ces textes-là. Donc, il faut avoir les moyens pour pouvoir continuer à former les agents. On a d'autres qui sont formés, qui partent à la retraite. Les jeunes qui viennent, il faut continuer à les former. Donc, si on n'est pas dans cette dynamique de formation perpétuelle, oui. ça devient compliqué.
Concernant les jeunes, on va y revenir dans ce débat. Monsieur Diallo. Voilà, Madame Kanouté et M. Sankere viennent de citer quelques actions qui menacent réellement la survie de nos forêts. Est-ce que, par rapport aux causes, est-ce que vous avez d'autres choses à dire par rapport à ça?
Voilà. Donc, dans ce cadre-là, je voudrais dire que pour montrer l'état de dégradation des forêts, moi, j'ai l'habitude de prendre des chiffres, c'est-à-dire le nombre de forêts, la superficie des forêts classées au Mali. Donc, à l'indépendance, on avait 4 475 millions d'hectares de forêts classées au Mali. Donc les forêts classées, ce sont des forêts soustraites de toute exploitation, selon les textes forestiers. Bon, maintenant, avec l'évolution, quand on a fait l'évaluation en 1980, on s'est retrouvé avec 1 million d'hectares de forêts classées. Donc il y a beaucoup de forêts classées qui ont totalement, dont la végétation a totalement disparu. Et c'était devenu des espaces libres. Et le service a pris la décision de déclasser ces forêts-là et d'aller classer d'autres nouvelles forêts. Donc, vous voyez, la tendance est que, en dépit du classement des forêts, on n'a pas pu mettre fin à la dégradation. Et donc, et cette situation-là est continue. Donc, ça veut dire qu'il y a quelques difficultés du service forestier à pouvoir appliquer sa mission. Mais il y a des raisons objectives. C'est que les effectifs des agents, les effectifs ne sont pas suffisants pour pouvoir assurer le contrôle de toute cette superficie-là. Parce qu'il y a les forêts classées, mais il y a aussi le domaine protégé. Toute cette superficie-là doit être gérée par des agents dont les effectifs sont très faibles. On a en moyenne 723 agents, tout cadre confondu, au niveau du service, alors que les cadres organiques même proposaient 1200 agents. Donc, on n'arrive pas à avoir le nombre qu'il faut. Et en même temps, ces gens-là n'ont pas les moyens techniques et financiers nécessaires pour faire leur mission. Donc tout ça explique la dégradation qui continue et les gens se donnent à cœur joie dans les forêts pour pouvoir exploiter à leur guise.
À leur guise. Mmh. D'accord, M. Diallo. Mmh. Madame Kanouté, je vais revenir vers vous parce que M. Diallo a parlé des classements des forêts qui posent aussi problème. Mmh. Est-ce que vous confirmez cela?
Le classement des forêts peut poser problème dans certains cas. Pourquoi? Parce que une forêt classée, c'est une forêt qui fait l'objet d'un acte de classement. Donc, c'est généralement par décret pris en Conseil des ministres. Les forêts qu'on a, ce sont des forêts qui ont été classées depuis vers l'indépendance. Maintenant, en voulant classer les forêts, les populations pensent que c'est pour les exproprier de leur territoire ou de leur terroir. Donc elles sont un peu réticentes par rapport au classement. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'on continue à classer. Et M. Diallo a parlé des déclassements. Dans les textes, on dit quand il y a déclassement, il faut un classement compensatoire. Donc chaque fois qu'on déclasse, il faut aller classer quelque part pour compenser la superficie déclassée. Donc tout le problème, c'est ça. Moi-même, j'étais dans un processus de classement où souvent, il y a aussi les problèmes fonciers entre les villages. Un village dit non, je ne suis pas d'accord parce que nos ancêtres étaient là. Donc eux, ils réclament la paternité de la chose. Et d'autres disent non, aussi, on n'est pas d'accord, c'est pour nous. Donc quand il y a un problème foncier comme ça, c'est difficile parce qu'il faut... Il y a normalement une assemblée générale où on écoute toutes les parties et ça doit faire l'objet d'une entente pour pouvoir classer une forêt. Donc généralement, ça pose problème. Mais je pense que dans le cadre du transfert de compétences, ça peut être classé et ça va être dans le domaine des collectivités. Et là, il ne va pas y avoir beaucoup trop de problèmes.
Est-ce que forêt classée ne signifie pas forêt protégée?
Et normalement, toutes les forêts sont protégées. Toutes les forêts sont protégées. Mais comme je l'ai dit, la différence, c'est quoi? C'est que quand c'est classé, il y a des restrictions par rapport à l'exploitation dans la forêt. Il y a certaines activités qui ne se font pas dans la forêt classée, comme si c'est dans le domaine protégé. Sinon, nous avons l'obligation de protéger toutes les forêts au Mali. Donc, ça doit faire l'objet d'application des textes.
Monsieur Sankaré, est-ce que vous avez quelque chose à
bon,
ajouter?
Pratiquement, ils sont dans leur domaine. C'est le forestier de formation. Ils connaissent très bien, comme ils ont eu à le dire, un processus très long. Et ça se fait selon, comme on appelle, des réalités sur le terrain, en même temps selon l'importance aussi. Voilà ce que je peux ajouter par rapport à ça.
L'inondation et le réchauffement climatique sont cités comme conséquences de la déforestation. Il s'agit des situations que nous vivons aujourd'hui. Monsieur Sankaré, comment vous expliquez cela?
Bon, malheureusement, c'est une réalité dans notre pays. Une réalité, moi, je pense que les responsabilités sont connues, en même temps, les causes sont connues. Parce qu'on ne peut pas développer une grande ville tant qu'il n'y a pas un chemin de, comme on appelle, de développement, tant qu'il n'y a pas, comme on appelle, un plan cohérent par rapport à l'évolution même de la population à l'intérieur de cette ville. Parce que quand on parle d'une grande ville comme Bamako aujourd'hui, il est... difficile de voir que les constructions se font de façon anarchique. En même temps, il y a comme on appelle les voies d'accès. En même temps, il n'y a pas de grands collecteurs à tous les grands quartiers de Bamako. Voilà quelque sorte ce qui font que l'eau ne va jamais laisser son passage et que les populations souvent s'adonnent à des comme on appelle constructions sur les voies d'accès. Bon, voilà oui, tous ces problèmes qui font que l'inondation.
Justement, on parle aussi des arbres qui peuvent aussi constituer de réduire ces conséquences.
Tout à fait. Comme on a l'habitude de dire, les arbres à travers leurs racines fixent le sol, parce que l'arbre joue un rôle très très important. C'est pas pour rien que même on le demande aussi qu'on plante des espaces ou bien qu'on crée des espaces verts à l'intérieur des villes, parce qu'ils ont un rôle très très important à jouer. Parce que lorsque le sol est exposé à lui-même, sans pour autant que, comme on appelle ça, soit occupé, soit par des constructions ou bien soit par des arbres, ça veut dire que le sol peut être fragilisé à tout moment et exposé à des conséquences d'érosion, et voire même de l'inondation qui est en train de causer des dégâts énormes à l'intérieur des grandes villes aujourd'hui.
Monsieur Diallo, est-ce que, voilà, monsieur Sangaré vient de le dire, le sol à lui seul ne peut pas contenir l'eau. Aujourd'hui, nous assistons à des cas d'inondation au Mali. Est-ce que si nous avions eu beaucoup, ou bien si nous avons beaucoup d'arbres plantés un peu partout, ça allait nous épargner cette situation?
Et inévitablement. Si on avait un territoire boisé, il y aurait eu moins de conséquences de ces inondations. Parce que, d'abord, la forêt... La forêt réduit le ruissellement de l'eau et puis stabilise les crues, parce que la forêt joue ce rôle important dans la régulation du régime des eaux sur un territoire. Donc quand un territoire est bien boisé, ces bienfaits-là sont là, et donc ça permet de réduire les conséquences néfastes des inondations. Bon, on est face à ce problème-là justement parce qu'on a déboisé un peu partout. Quand on prend Bamako, tout alentour, et puis les collines aussi, tout est déboisé et puis des populations sont installées. Donc vraiment, c'est des risques énormes que l'on est en train de courir comme ça.
D'accord. Madame Kanouté, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce point?
Oui, parce que vous voyez, même le comblement des mares et des fleuves, c'est dû au fait qu'il n'y a pas suffisamment d'arbres. Si on avait suffisamment d'arbres, le sable qui descend, qui coule du sommet vers le fleuve, ça allait être réduit. Donc on n'allait pas assister à tous ces impacts négatifs. Mais aussi quand il y a inondation, il faut se dire que les arbres qui ne supportent pas la stagnation d'eau peuvent aussi mourir. Parce que là, ils ne supportent pas l'eau jusqu'à un certain temps. Donc ces arbres aussi peuvent mourir. Donc il y a les effets néfastes des changements climatiques sur les arbres.
D'accord. Par rapport toujours à la déforestation, vous avez cité quelques actions menées par les autorités pour lutter contre les phénomènes. Est-ce qu'il y a des dispositions vraiment réelles qui sont mises en place aujourd'hui pour faire face à la situation?
Pour faire face à la situation, il y a des actions réelles. D'abord, on continue à informer, sensibiliser sur la dégradation des forêts. Il y a l'élaboration des plans d'aménagement. Les plans d'aménagement, c'est quoi? C'est un document d'orientation qui dit voilà et telle forêt, voilà ce que la forêt peut supporter. Et voilà ce qu'on doit faire pour que la forêt puisse continuer à jouer ses différents rôles ou ses différentes fonctions. Donc les plans d'aménagement sont élaborés et on est accompagné par certains partenaires, notamment TAM Voyage et notamment la Société de gestion forestière. On a d'autres partenaires qui sont dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces plans d'aménagement. Donc ces plans d'aménagement permettent effectivement de réduire la dégradation des forêts. Parce que dans le cadre des plans d'aménagement, on ne doit pas exploiter ce que la forêt n'est pas capable de donner. Donc ça contribue. Il y a aussi les actions de reboisement annuelles. Chaque année, le département organise des activités de reboisement, même si dans beaucoup de cas, ces activités de reboisement ne sont pas sécurisées. C'est-à-dire qu'il y a des reboisements qui sont faits, mais ils ne sont pas sécurisés et il n'y a pas d'action d'accompagnement après le reboisement. Il y a aussi le transfert de compétences. Le département est engagé dans le cadre du transfert de compétences. Les compétences en matière de gestion des ressources forestières et fauniques ont été transférées aux collectivités. Parce qu'on s'est dit, en tant qu'État, nous n'avons pas suffisamment d'argent pour couvrir tout le pays, donc toutes les forêts du pays. Il faut transférer les compétences de gestion aux collectivités, donc pour leur donner la latitude, elles aussi, d'avoir leurs services forestiers et de mieux gérer aussi leurs forêts.
Oui. Voilà. Monsieur Sankari, en parlant d'action, il y a aussi la mise en place du GNT, qui est le groupe national du travail. Voilà, quel est l'objectif de ce regroupement?
Bon, moi, je vais essayer de parler de façon générale en quelques mots. C'est arriver à une gestion durable de nos forêts, arriver une phase où les forêts seront à l'abri de toute forme de dégradation, de toute forme de déforestation. Et parce que le GNT, en tant que structure, en tant qu'association, ne vise que on puisse se retrouver dans un état où les forêts sont à l'abri, où les forêts peuvent continuer de jouer pleinement leur rôle auquel elles ont eu à le jouer depuis bien avant l'indépendance jusqu'à nos jours et qu'elles continuent de servir pour les générations futures. Parce que nous avons été conscients de cet état de fait que si toutefois les acteurs ne se mettent pas ensemble pour essayer de voir dans quelle mesure, dans quelle dynamique nous pouvons conjuguer les efforts pour faire face à notre responsabilité. Parce que quand tu vis ton moment, quand il y a, cette opportunité d'exercer dans ce milieu et tu as ta part des responsabilités, tu es obligé d'apporter ta contribution pour faire en sorte que les forêts puissent être non seulement protégées, mais aussi pour que ça puisse servir pour les générations futures. Ça, c'est un gros mot. Mais le GNT a ses objectifs. Je pense qu'il y a, les plus grands responsables du GNT qui sont là.
Nous allons aller directement avec M. Diallo, qui est aussi membre du GNT. Et vous, comment vous percevez ce projet, ce regroupement?
Donc, au sein du GNT, je suis le secrétaire technique. Donc, comme on l'a dit, le GNT, le groupe national de travail sur la gestion durable des forêts et la certification forestière, est un cadre de concertation qui réunit un certain, comment dirais-je, l'ensemble des acteurs, des catégories d'acteurs intéressés par la forêt. Donc, la mission principale, c'est de promouvoir la gestion durable des forêts.
La gestion durable des forêts.
La gestion durable des forêts. Mm-hmm. Parce qu'on a vu que les forêts se dégradent à un rythme accéléré dans notre pays. Et ça, c'est une mauvaise chose. Donc, pour circonscrire cela, il faut aller vers la gestion durable.
Vous insistez sur le mot gestion durable. Qu'est-ce qu'une gestion durable?
Voilà. Donc, une gestion durable des forêts, mm-hmm. c'est une gestion qui essaie de concilier l'aspect écologique et puis l'aspect économique et social et culturel. Vous voyez? Donc, on sait que les forêts-là, ce sont des sources de biens pour l'économie, pour les communautés. Et donc, il s'agit de permettre à ces communautés-là de satisfaire leurs besoins, mais de faire en sorte que les forêts-là ne se dégradent pas. Voilà, c'est ça. Si on arrive à cela, on est dans la gestion durable.
Est-ce que vous parvenez ou vous êtes en voie?
Voilà. Donc, on est en train de mettre en place les conditions pour ce faire. Donc, la première des conditions, c'était de réunir d'abord l'ensemble des acteurs. Parce que il faut que tous ceux qui sont dans la forêt, qui font des exploitations dans la forêt, puissent se parler. Parce que chacun va, isolément, et puis va mener ses actions. Donc, on doit essayer de mettre tout ça ensemble. Et puis maintenant, que les uns et les autres se parlent et puis qu'on puisse arriver à mettre une pression que la forêt peut supporter. Voilà.
D'accord.
Donc, on a mis le cadre en place. Il faut aussi les normes de gestion durable. Mm-hmm. Donc, on a élaboré les normes de gestion durable et on les a fait homologuer par les autorités, par l'AMANORME. Donc, c'est une norme nationale. Maintenant, ça, c'est fait. Maintenant, il faut aller maintenant à l'application.
L'application. Voilà. Madame Kanouté, GNT, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à...
Voilà, je voulais un peu situer le contexte de la mise en place du groupe national de travail, mm-hmm. communément appelé GNT. En fait, le Mali est membre de l'Organisation internationale des bois tropicaux. Et à ce titre, le Mali a adhéré à l'accord international sur les bois tropicaux. Et dans ce cadre, le Mali doit veiller à la mise en œuvre d'une gestion durable au Mali. C'est dans ce cadre-là que le groupe national de travail sur la gestion durable des forêts et la certification forestière a été mis en place. Donc, pour accompagner les autorités dans le cadre du respect du contenu de cet accord-là. Maintenant, le GNT a vraiment des objectifs clairs. C'est informer, sensibiliser le grand public par rapport à la gestion durable des forêts. Parce que c'est une notion qu'on ne maîtrise pas beaucoup. Le deuxième objectif, c'est veiller à l'application des grands principes de gestion durable des forêts. On a quatre grands principes, il faut veiller à leur application. Le GNT veut aussi travailler sur un éveil de conscience autour de la gestion durable des forêts et la certification forestière. Le GNT veut aussi assurer un peu la tradition de la certification forestière au Mali et enfin développer la synergie d'action entre les différents acteurs. Vous avez dit, le GNT, c'est vraiment une plateforme d'acteurs engagés dans le cadre de la gestion des forêts. Et maintenant, la gestion durable, c'est quoi? C'est une gestion qui permet de satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre les besoins des générations futures. Ça, c'est vraiment une définition très, très simple,
simple
qui peut être comprise par tout le monde.
Est-ce qu'à ce stade, on peut parler du bilan? Parce que M. Diallo a parlé de quelques actions qui sont déjà menées.
Mm-hmm. Mm-hmm. Bon, on va dire qu'on ne peut pas parler des bilans actuellement parce qu'on est encore à nos démarrages. Vraiment, on est en train de démarrer parce qu'un regroupement comme ça, une plateforme comme ça, ce n'est pas très facile. Donc, on ne peut pas parler des bilans, mais on peut quand même parler, comme il a dit, des actions menées, ce qu'on a fait de la mise en place du GNT jusqu'à maintenant. C'est ça un peu les actions menées. Donc, dans ce cadre-là, on a déjà formé, sensibilisé les acteurs par rapport à ces grands principes. Pour parler de gestion durable des forêts, il faut vraiment appliquer ces grands principes-là. Donc, on a commencé déjà. Il y a aussi l'audit. Tout comme il y a l'audit financier, il y a l'audit des forêts aussi. Donc, l'audit s'est fait sur la base de ces grands principes. On a eu à auditer déjà des forêts au Mali pour leur dire, voilà, où est-ce qu'on est actuellement? Est-ce qu'on est en train d'aller vers une gestion durable ou pas? Donc, on a fait ça. On a accompagné aussi certains acteurs dans le cadre des reboisements. Et il y a quelques études aussi qui ont été effectuées dans le cadre du GNT.
Dans le cadre du GNT. Monsieur Sankari, le GNT par rapport au bilan?
Bon, moi, je dirais qu'à mi-chemin, les activités menées par le GNT sont positives parce que pour un premier temps, il fallait une prise de conscience, comme elle a eu à le dire, pour dire que dans quel état on se trouve actuellement par rapport à la gestion de nos forêts. Est-ce qu'on s'inscrit dans une gestion durable ou bien les différents, comme on appelle, les différentes façons de gérer sont conformes par rapport aux normes internationales. Est-ce que réellement, quelle direction nous sommes en train de prendre? Est-ce que ça va nous amener à laisser quelque chose pour les générations futures? Bon, vu toutes ces questions, vu tous ces questionnements, on est arrivé à, comme on appelle, à faire intéresser tous ceux qui interviennent dans le cadre de la gestion forestière, que ce soit, comme on appelle, du secteur privé ou bien que ce soit du secteur étatique. Raison pour laquelle nous, du secteur privé, on est conscient que la création du groupe national de travail s'inscrit dans la vision de notre politique pour la gestion durable de nos forêts. Parce qu'en toute honnêteté, on évoluait comme on faisait un pilotage à vie. Mais avec cet événement, nous sommes conscients que chacun va, comme on appelle, s'inscrire dans une dynamique, non seulement qui va permettre de voir l'état actuel, mais aussi l'évolution par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Le GNT, nous sommes en train de voir comment nous pouvons mettre en exergue notre ambition à travers les partenaires. Parce que pour le moment, comme elle allait dire, nous sommes à notre débit, mais comme nous avons élaboré des documents qui vont donner une large visibilité aux activités du GNT, qui va permettre au GNT d'exister et de faire comprendre qu'on ne peut plus, comme on appelle, arriver dans une gestion archaïque. On ne peut plus continuer à faire cette gestion archaïque. Il faut dépasser ça. Et les acteurs du secteur privé sont aussi conscients et nous allons essayer de conjuguer les différents efforts pour qu'au moins le GNT puisse bien mener sa mission.
Professeur, le GNT, est-ce que vous pensez que c'est une solution réelle? Parce que nous savons tous qu'il y a eu d'autres politiques qui n'ont pas répondu suffisamment aux attentes. Est-ce qu'avec le GNT, il y aura un changement?
Non, mais c'est vraiment une étape importante dans la recherche de cette solution-là. Parce que le monde entier est confronté au même problème. Hein. C'est-à-dire comment faire pour préserver l'environnement dans les différents pays. Mais il a été dit que cela n'est possible qu'avec la participation, le principe de la participation. Donc il faut que les acteurs qui interviennent dans la forêt soient réunis dans un cadre. Et le GNT représente ce cadre. Donc, nous pouvons dire que nous sommes sur la voie pour réussir le processus de la gestion durable des forêts. En tout cas, c'est indispensable. La réunion, la participation de tous les acteurs est indispensable au succès de l'action.
D'accord. Madame Kanouté, ici, on a cité quelques actions quand même menées par l'État dans le cadre de la lutte contre la déforestation. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ou bien des résultats vraiment visibles sur le terrain? Par rapport à vos actions qui ont vraiment contribué à limiter la menace de la déforestation?
Le GNT ou la direction des
La direction, là on parle sur le plan, okay. Le plan national.
Sur le plan national, on l'a dit, nous avons mené la direction nationale des eaux et forêts à travers ses projets et programmes à mener assez d'actions sur le terrain. Nous avons, en parlant par exemple de réduire la pression sur les forêts, il faut proposer des alternatives. Donc pendant très longtemps, la direction était dans la dynamique du contrôle de la répression, en disant arrêtez, arrêtez, ne faites pas, ne faites pas. Et puis un certain temps, la direction est dans la dynamique de proposer des alternatives à l'exploitation du bois. Ces alternatives sont les activités de maraîchage, les vergers, l'apiculture, l'aviculture, la transformation des produits forestiers non lignés. Donc ça, tous les exploitants, par exemple, qui étaient en train d'exploiter, si ces exploitants ont une autre activité. Généralement, elles abandonnent l'exploitation. Donc, ces activités existent sur le terrain et c'est façon visible. Nous avons aussi des activités d'aménagement, comme je l'ai dit, la mise en œuvre des plans d'aménagement, où on a un document de référence qui est là, qui dit voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et là, nous avons ces cas où la Direction nationale des eaux et forêts est engagée à assurer le contrôle par rapport à la mise en œuvre de ces plans d'aménagement. Nous avons des postes aussi des eaux et forêts un peu partout pour contrôler les produits qui rentrent dans les centres urbains, est-ce que c'est conforme, est-ce que c'est pas conforme. Il y a des actions d'information, de sensibilisation et de formation. On l'a dit, on n'est pas nombreux. Et dans le cadre de la gestion des forêts, il y a assez d'acteurs, des acteurs qui ont des intérêts divergents. Donc, il faut arriver à concilier les intérêts de ces acteurs-là. Et là, il faut les regrouper, il faut les former. Et la Direction nationale des eaux et forêts est dans la dynamique. Ça a commencé depuis 2017, là, à former tous les acteurs, tous les agents du développement rural dans le cadre de la gestion des forêts. On s'est dit, il ne faudrait pas seulement former les forestiers, mais il faut former les acteurs et les partenaires des forestiers. Donc, okay. On est dans cette dynamique, ça aussi, c'est très visible.
On va parler aussi du nord du pays. On ne va pas parler de forêt, mais peut-être du désert. Donc, est-ce que le reboisement est une solution aujourd'hui, puisqu'on parle de l'avancée du désert?
Oui. Le reboisement, c'est une solution quand c'est fait dans les règles de l'art. Donc, il faut d'abord choisir l'espèce ou l'essence. L'espèce ou l'essence là, savoir où est-ce qu'on doit la mettre. Donc, il y a l'adaptation espèce type de sol. Il faut tenir compte de ça. Quand on le fait, comme je l'ai dit, il faut sécuriser. Il faut sécuriser, il faut entretenir. Donc, on ne doit pas planter et tourner le dos. Généralement, ça ne marche pas. Mais en dehors du reboisement, qui souvent est coûté, il y a par exemple les techniques de régénération naturelle assistée, où là, on laisse les jeunes pousses grandir. Et on intervient juste pour faire l'entretien. Là, c'est moins coûteux et les résultats sont très palpables et positifs par rapport au reboisement.
En gros, est-ce que des actions sont menées dans ce sens par la Direction nationale?
Bien sûr, des actions sont menées dans ce sens-là. Tous les projets de la Direction nationale, projets et programmes de la Direction nationale des eaux et forêts mènent des actions et de reboisement parce que là, il y a les moyens. Et des actions de conduite de régénération naturelle assistée avec les populations où les populations sont formées et ce sont ces populations même qui assurent la conduite de ces régénérations naturelles assistées.
Monsieur Sankaré, vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y.
Voilà, donc dans le cadre de la lutte contre la désertification, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de du nord de notre pays. Donc dans ce cadre-là, le Mali, avec d'autres pays du Sahel, a créé le projet de la Grande Muraille Verte. Et donc, qui consiste à faire une barrière sur la voie de la... en tout cas, une barrière verte pour arrêter l'avancée du désert vers le sud du pays. Et donc, ce projet est en cours. Et au niveau du Mali, on a même créé une agence. Une agence de la Grande Muraille Verte. Mm-hmm. Et donc, il va avoir comme mission de créer la barrière sur le territoire du Mali. Okay. Et donc, ces actions-là sont en cours. Et donc, ça, c'est un motif d'espoir pour que, au niveau de la zone sahélienne, on puisse arrêter l'avancée du désert. Maintenant, plus au nord, il y a aussi la lutte contre l'ensablement. Donc, dans ce cadre-là, la Direction nationale des eaux et forêts aussi a mené de grands projets dans le nord pour pouvoir lutter contre l'ensablement.
D'accord. Donc, est-ce que la muraille verte, est-ce que vous pensez que c'est un projet efficace?
La Grande Muraille Verte, effectivement, parce que ce sont des solutions techniques à la lutte contre la désertification. Donc, il s'agit de les réaliser et en ce moment, on peut voir les bénéfices. Bon, fort heureusement, les pays du Sahel peuvent bénéficier de l'apport financier.
On a déjà des résultats concrets à ce niveau?
au niveau du Mali.
Oui, je vais dire par rapport au projet Miraille Verte.
Grande Miraille Verte.
Grande Miraille Verte.
Voilà, donc au moins on a mis la structure. Mm-hmm. Pour que ce travail puisse se mener sur le terrain, on a mis la structure et on a commencé, je crois, du côté du Sénégal.
D'accord. Hein? Mais chez nous, on attend toujours les résultats.
Voilà, c'est ça.
Bon, d'accord.
Il va falloir maintenant qu'on accélère la cadence, quoi.
Hein? D'accord.
Il faut accélérer la cadence pour qu'on aille. Surtout que le problème financier
n'est pas réglé.
On peut dire réglé parce qu'on demande au pays de monter des projets et puis de solliciter l'argent pour pouvoir faire, pour mener des activités.
Donc il suffit juste de proposer des projets.
Oui, oui.
D'accord. Monsieur Sankari, on a parlé de la déforestation, ses causes et conséquences. Comment faire en sorte que les forêts soient durables? On a parlé de gestion durable, mais comment faire en sorte que les forêts soient gérées de façon durable?
Merci pour la question. C'est à partir de cette initiative que le GND a été créé. Comment faire que les forêts puissent être gérées de façon durable? Parce que, comme Mme Kanouté a eu à le dire, aujourd'hui, quand il devient gestionnaire d'une forêt, il y a, comme on appelle, un certain nombre de démarches qu'il faut entamer d'abord. Dont la première démarche constitue à l'élaboration du plan d'aménagement. Ce que tu comptes faire dans cette forêt. Et ce que tu vas, comme on appelle, faire en tant que, comme on appelle, acteur et l'implication des populations aussi. En même temps, l'implication du partenaire aussi, qui peut être la Direction nationale des eaux et forêts ou bien les collectivités. Mm-hmm. Alors, à partir de ce document déjà, ça donne une large, comme on appelle, visibilité des actions à mener, non seulement à court, moyen et long terme, mais aussi ça permet aux différents acteurs de comprendre réellement est-ce que cette dynamique que vous allez réaliser, ou bien c'est les différentes activités que vous allez réaliser à l'intérieur de cette forêt, permet de savoir si la forêt sera gérée de façon durable, ou bien si, comme on appelle, les activités vont mettre fin ou bien peuvent même causer, comme on appelle, un frein au développement même de la forêt. Alors, il faut appliquer non seulement, du moins il faut aller élaborer non seulement le plan d'aménagement, mais aussi il y a des principes, critères, indicateurs que le GNT, à travers, comme on appelle, l'OIBT, l'Organisation internationale des bois tropicaux, dispose à son niveau, le GNT, qui a même partagé ses objectifs, et du moins ses principes, critères et indicateurs, à tous les acteurs qui interviennent dans le cadre de la gestion durable des forêts, qui, ces documents, leur permet de comprendre quels sont les différents, comme on appelle, processus que vous devez entamer lorsque vous devenez gestionnaire d'une forêt. Et quelles sont les grandes décisions que vous allez appliquer et quelles sont les parties prenantes qui doivent intervenir dans une gestion durable. À partir de cette large connaissance, vous allez avoir, comme on appelle, une vie d'ensemble qui va vous permettre non seulement de gérer, comme on appelle, en symbiose avec toutes les communautés riveraines, mais aussi, comme on appelle, s'inscrire dans une politique de progression positive dans le cadre de la gestion de la forêt. Mais le document de base, c'est le plan d'aménagement.
Madame Kanouté, en conclusion, quelles sont les solutions à préconiser?
La solution préconisée est d'abord pour une gestion durable des forêts. Il faut dire que la gestion durable des forêts repose sur trois piliers. Il faut avoir un pilier économique, il faut avoir un pilier social et un pilier écologique. Le pilier économique doit s'inscrire dans le cadre de l'accompagnement. La forêt arrive écologiquement à maintenir toutes les ressources. Les ressources qui sont là, que ce soit les arbres, les animaux, et les organismes, tout doit être maintenu sur place. Sur le plan social, la gestion de la forêt doit pouvoir satisfaire un peu financièrement les besoins des travailleurs ou les communautés riveraines qui sont là autour de la forêt. Et la fonction économique ou le pilier économique, c'est que la forêt doit subvenir aux besoins, aux dépenses. Donc ça, ce sont les trois piliers. Maintenant, pour aller à cette gestion durable, il y a des grands principes, comme je l'avais dit. Le premier principe, c'est vraiment sur le plan politique. Mm-hmm. On doit avoir un document de politique cohérent. Oui. On doit avoir des textes nationaux, internationaux. Et on doit avoir, par rapport à chaque forêt, un plan d'aménagement. Ce plan d'aménagement qui nous dit, voilà l'état de la forêt, voilà ce qu'on peut faire, quand, comment, avec quels moyens. C'est ça.
D'accord, monsieur Diallo. en conclusion, quelles sont les solutions à préconiser?
Bon, les solutions à préconiser, c'est vraiment l'application. L'application d'abord des textes et puis l'application aussi des normes de gestion durable. C'est à ces conditions-là que l'on peut arrêter la dégradation des forêts et puis inverser la tendance et aller vers la gestion durable.
Mot de fin, monsieur Sankari.
Je ne peux que vous remercier par rapport à cette opportunité et dire que le Mali aujourd'hui a besoin d'aller vers une gestion durable en appliquant les textes et en adoptant les stratégies et un plan d'aménagement cohérent pour toutes les forêts.
D'accord. C'est la fin de ce grand dialogue du jour qui était axé sur la déforestation, comment sauver les forêts au Mali. On a parlé de la situation un peu générale des forêts au Mali avec nos invités, Madame Kanouté Fatoumata Kone, représentante de la Direction nationale des eaux et forêts, Tidjani Sankaré, qui représentait le groupe Kledou, le professeur Souleymane Diallo, qui est professeur à l'IPR Katibougo. Je suis Arkia Touré. En régie vidéo, on avait Gagné Kanté, à la mise en onde de Mamadi Keita, et la coordination a été assurée par Mohamedou Touré. Merci de l'avoir suivi.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mandi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.